Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum de Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum qui nous réunit ce soir est « Processus d'élaboration et d'adoption de textes de loi sur la sécurité intérieure au Niger ». Quels sont les motifs et les objectifs de l'élaboration de textes de loi sur la sécurité intérieure ? Quels sont les domaines qui sont concernés par ce texte ? Quels sont les axes clés de ce texte et quel est le processus auquel obéissent l'élaboration et l'adoption de textes de loi sur la sécurité? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Alfari Souley, qui est membre du groupe de travail sur l'élaboration des textes de loi sur la sécurité. Monsieur Alfari, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes également en compagnie de l'honorable Amina Abdoussouna, qui est membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Elle est au téléphone avec nous. Madame Amina Abdoussouna, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également invité le ministère de l'Intérieur pour cette même émission, mais nous n'avons pas encore vu de représentant pour ce ministère. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. En 2017, le Niger s'est doté d'une stratégie nationale de sécurité intérieure. Le premier objectif stratégique de cette stratégie est l'adoption d'une loi sur la sécurité intérieure afin de fonder une solide base juridique. Depuis quelques mois, des acteurs du domaine de la sécurité intérieure travaillent ensemble pour parvenir à la concrétisation de cette loi. La dite loi permettra à terme une meilleure planification, une bonne collaboration et coordination entre les forces de sécurité intérieure au Niger. Ce soir, nous verrons avec quelques acteurs où en est le processus. Pour commencer, je demanderai à chacun de nous présenter d'abord la structure qu'il représente. Je commence par vous, honorable Amina Abdoussouna, membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.
Oui, bonsoir, monsieur Alassane.
Oui, dites-nous, honorable, présentez-nous brièvement la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale.
Donc, la commission de la défense et de la sécurité est la commission permanente de l'Assemblée nationale compétente pour examiner au fond toutes les questions relatives à l'organisation générale de la défense et de la sécurité, à la politique de coopération en matière de défense, au régime de l'état d'urgence et de l'état de siège, au statut du personnel militaire des forces de sécurité publique et assimilées, aux suggestions imposées dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux citoyens en leur personne et en leur bien, aux lois de programme et de plan militaire, au service national, au service militaire et à la justice militaire. Elle peut aussi être saisie pour avis.
Pour avis,
oui. Des autres textes qui n'entrent pas dans son champ de compétences. De même, elle peut aussi être amenée à effectuer des missions d'information ou d'enquête.
Auprès de
voilà
qui? Auprès de qui? Des missions d'information et d'enquête auprès de qui?
Auprès des populations. Mmh. C'est-à-dire elle peut amener à être déplacée, faire des visites de terrain, s'inquiétir de certaines informations et élaborer un rapport qu'elle va déposer à l'Assemblée nationale.
Alors, cette commission, elle est composée de combien de députés? Et est-ce qu'on peut avoir une idée rapidement du profil de ses membres?
Oui, la commission est composée de 21 députés, tous bords confondus. Donc, les députés de la majorité comme de l'opposition, des femmes et des hommes.
Bien, nous allons revenir en studio avec donc Alfari Souley, qui est membre du groupe de travail sur l'élaboration des textes de loi sur la sécurité. Alors, une brève présentation également de ce groupe de travail, sa mission principale et le profil de ses membres.
Le comité technique est vraiment composé d'experts en matière de sécurité, oui, et d'experts en matière donc de droit, effectivement. Nous avons d'abord un haut magistrat, oui, et la personne de M. Al-Mustapha. Nous avons...
Al-Mustapha qui? Al-Mustapha,
parce qu'il y a beaucoup d'Al-Mustapha. Al-Mustapha, comment il s'appelle? Qui est actuellement directeur de cabinet au haut représentant de l'État.
D'accord.
Oui, c'est un magistrat. Mm-hmm. Tout le monde le connaît.
Oui.
Et nous avons fait à son âme l'inspecteur général des services de sécurité actuel, donc le général Bouvet, il est décédé. Nous avons l'ancien inspecteur général des services de sécurité à la retraite, actuellement M. Mwanzo, qui continue encore, en tout cas, à donner ses offices à la CENI, de l'avoir à la CENI.
Est-ce que, M. Alfari Souley, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner la composition du groupe de travail, peut-être les représentants par secteur ou par service, et non nous donner des noms comme
bon,
vous faites,
ce que j'ai dit,
donner
voilà,
les services qui sont représentés
les
dans
services
ce groupe
qui
de
sont
travail.
Représentés, bon, je sais qu'il y a la police dans sa globalité, il y a celui de
l'inspection générale des services de sécurité,
l'inspection générale des services de sécurité, il y a l'autre qui est... Lui et moi, nous ne sommes pas vraiment de la police. Oui, donc, en quelque sorte...
Les personnes de formation juridique qui ont des formations de droit.
Exactement. Oui. Voilà.
Alors, quelle est la mission de ce groupe de
la
travail?
La mission, c'est qu'on nous demande maintenant de voir la stratégie nationale de sécurité, à donner des recommandations, parce que et lorsque ils ont élaboré la stratégie nationale, ils ont donc dégagé les atouts et les faiblesses. Donc, au niveau des faiblesses, effectivement, il y a des insuffisances et dans les textes qui actuellement régissent la mission des FDS, et il y a aussi des textes qui n'existent même pas, des domaines sont vierges. Donc, il faut en tout cas combler les insuffisances, il faut aussi créer donc de nouveaux textes qui vont régir les domaines vierges là.
Ce comité a été mis en place récemment ou il y a
bon, en tout cas, ça fait plus...
Ça fait plus d'un an
En tout cas, ça a duré ce comité.
Quels sont les motifs, en tout cas, qui ont prévalu à l'élaboration d'un texte de loi sur la sécurité intérieure?
C'est tout à fait normal. Aujourd'hui... Et il n'est un secret à personne, la situation sécuritaire qu'on est en train de vivre. Donc, il y a du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons des djihadistes, nous avons donc les Boko Haram, nous avons en tout cas les crimes transfrontaliers organisés, nous avons la migration irrégulière. Il y a tout ça là, auquel les FDS font face. Ils ont les moyens, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque nous avons consulté les textes, c'est vrai, les textes sont là, mais pour qu'ils puissent valablement assumer vraiment leur mission, il faut qu'ils soient dotés d'arsenal juridique réel et légal. Donc c'est pourquoi vraiment nous sommes réunis pour rédiger le projet de texte et combler les lacunes là, afin qu'ils puissent quand même valablement assumer leur mission. C'était comme ça.
Quels sont les objectifs principaux visés à travers l'élaboration du texte de loi sur la sécurité intérieure?
Les objectifs, c'est ce que je vous ai dit, les objectifs principaux qui sont visés, c'est vraiment de doter les FDS.
Oui, ça, on a d'arsenal juridique.
Oui, oui. C'est ça. Et vraiment, parce que tant que ils ne sont pas dotés de textes. Et ce n'est pas seulement parce que c'est en rédigeant ces textes-là que nous arrivons aussi à dire voilà ce qu'il leur faut, voilà leur organisation, et il faut tous ces... Voilà la coordination des actions, parce que les FDS, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous voulons qu'il y ait une certaine coordination dans la lutte contre, en tout cas, ces fléaux-là, dans la lutte contre ces djihadistes, dans la lutte contre ces Boko Haram. Il faut qu'il y ait une coordination. on fait partout parce que le FDS, quand on dit FDS, c'est l'ensemble de tous les porteurs de tenue, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la garde nationale, que ce soit les eaux et forêts, la douane, et puis la protection civile. Tous ceux qui portent la tenue, sont, on les considère comme même la police municipale que nous venons de créer, qui à l'heure actuelle, maintenant, a commencé à avoir au moins des textes, parce qu'avant, il n'y avait même pas de textes.
Alors, de la police municipale. Pour des citoyens lambda comme nous autres, ou qui, en tout cas, qui n'ont pas beaucoup d'informations sur les questions de sécurité, mais quand même, on s'est dit que vous parlez de Boko Haram, vous parlez de djihadistes. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas un autre domaine que le domaine de la sécurité intérieure?
La sécurité intérieure, là, c'est tout. Quand on dit sécurité intérieure, là, il y a tout et tout. Même la faim. Ça dérange la sécurité. Donc, quand on dit sécurité intérieure, il y a tous les domaines qui sont concernés. Tous les domaines. Que ce soit le domaine de sécurité, même en tant que contenu, la sécurité des biens des personnes, la sécurité d'aller et de venir. Et même en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Donc, quand on dit sécurité, ça englobe tout.
Bien. Vraiment. Bien. Nous allons donner la parole à l'honorable Amina Abdoussouna. Alors, vous avez entendu tout à l'heure Alfari Souley détailler les motifs qui ont prévalu à l'élaboration, à l'enclenchement d'un processus d'élaboration d'un texte de loi sur la sécurité intérieure. Il s'agit notamment du fait qu'il y a ce besoin de doter les forces de défense d'arsenal juridique et ce besoin aussi de coordination. Est-ce que c'est des questions aussi auxquelles vous êtes sensibilisé, des questions sur lesquelles vous êtes conscient au niveau de, en tant que représentant, en tant qu'élu, je vais dire, de la nation. Ces questions de coordination et d'existence même d'arsenal juridique.
Oui, bien sûr, nous sommes conscients de tous ces problèmes que M. Alfari vient d'évoquer. Parce que, avant tout, comme il l'a dit, la sécurité, c'est un tout. C'est un domaine multisectoriel, donc il faut qu'on arrive à la doter vraiment d'un arsenal juridique très fort pour que les FDS puissent arriver à faire leur mission. Donc, je pense que c'est vrai. Nous, en tant qu'élus, nous devrons d'ailleurs être en première ligne de cette lutte. Et ce qui est surtout texte de loi qui va atterrir à l'Assemblée nationale concernant la sécurité intérieure, nous ne pouvons que l'adopter. Voilà.
Alors, nous allons revenir en studio avec vous, M. Alfari Souley. Aujourd'hui, ces textes, en tout cas, sur lesquels vous avez travaillé, votre commission, le comité en tout cas technique dont vous avez parlé, est-ce que vous pouvez nous donner lecture des principaux domaines qui ont été, en tout cas, qui ont été traités dans ce document, ou les axes clés, en fait, de ce document de loi de sécurité intérieure?
D'abord, en ce qui concerne l'avant-projet de loi sur la sécurité, j'ai dit, nous avons fait des multitudes de projets, nous avons élaboré de multitudes d'avant-projets de textes. Il n'y a pas seulement que la loi relative à la sécurité intérieure. Il y en a d'autres, il y en a, je vais vous les...
Donner lecture des autres textes, rentrons d'abord.
Voilà. Donc, lorsque, en tout cas, vous prenez l'avant-projet de texte, vous allez voir, nous, de toute façon, ne sommes pas des articles ou des chapitres. Comme c'est très vaste, le domaine est large, on a vraiment fait des titres. Et dans les titres, nous avons mis maintenant des chapitres. Et au niveau des chapitres, il y a eu des sections. Et ensuite, on a mis les articles parce que il y a beaucoup, le domaine est vaste.
Oui.
Donc, dans le premier titre, nous avons en tout cas pris le soin de mettre tout ce qui est disposition générale, tout ce qui est général vraiment pour les FDS. On a mis ça dans ça. Au niveau de ce titre, on a trois chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est de l'objet et du champ d'application. On a dégagé pourquoi. Donc, l'objet que vise vraiment cet avant-projet de loi et le champ d'application.
Oui.
Ceux qui sont vraiment, ceux qui relèvent donc de son champ d'application. Et nous avons aussi donc fait un autre chapitre pour faire des définitions, c'est-à-dire amener les lecteurs à comprendre chaque mot en lisant le projet de loi. Donc, il y a les définitions vraiment qui vont les conduire à comprendre
pour tellement éviter, ce que ça, pour voilà. éviter les ambiguïtés.
Exactement. Mmh. Alors maintenant, nous avons aussi donc dégagé un autre chapitre pour maintenant citer les acteurs de la sécurité intérieure. Mmh. La sécurité intérieure. Donc, dans le chapitre 3, vous allez voir tous ceux qui sont acteurs de la société. Nous avons parlé des acteurs étatiques, des institutions publiques. On a parlé même on a parlé des forces publiques et des acteurs non étatiques. Donc, même la presse, nous avons cité la presse aussi, c'est un acteur.
Comme qui, étant par,
ah oui, c'est oui.
Faisant partie de, ah, oui, d'acteurs de sécurité
exactement
intérieure.
Exactement, de sécurité intérieure. Mmh. La presse apporte beaucoup sa contribution vraiment dans cette sécurité intérieure. Mmh. Et nous avons fait un titre 2, c'est-à-dire les domaines de la sécurité intérieure. On a fait un premier chapitre sur la sécurité publique en tant que telle. Donc, on a fait un deuxième chapitre sur la sécurité civile. Un autre chapitre sur la protection juridique des personnes chargées de la sécurité intérieure. Un quatrième chapitre sur les enquêtes administratives. Et un autre titre, c'est-à-dire le titre 3, nous avons parlé des dispositions particulières applicables à chaque force de sécurité intérieure.
Et il s'agit de quoi à ce niveau?
Il s'agit donc à ce niveau de l'organisation et des attributions donc des forces de sécurité intérieure. Leur organisation, les attributions, chaque donc FDS a ses textes spécifiques qui l'organisent et qui définissent ses attributions. Ça, on a fait. Et nous avons parlé aussi de l'organisation et des attributions des forces de sécurité intérieure.
C'est ce que j'ai dit, non? Quels sont les autres titres? On va aller rapidement.
Les autres titres.
Juste les titres.
Voilà, le titre, le titre 4.
Pour qu'on ait une idée générale.
Le titre 4, c'est les orientations de la sécurité intérieure. Les orientations. Donc, aussi, nous avons fait vraiment des orientations aussi. Et le titre 5, nous avons fait donc, la mise en œuvre. Comment il faut faire la mise en œuvre? Et le titre 6, nous avons parlé du renseignement. Le renseignement, c'est très important. Oui, c'est très important parce que sans renseignement, il est difficile quand même vraiment de faire un combat agréable. Il faut avoir vraiment des sources d'informations fiables. Oui, donc le dernier titre, c'est les dispositions finales. Quoi.
Bien.
Voilà.
Madame Amina Abdoussouna, vous êtes avec nous. Est-ce que déjà, vous avez peut-être une question à l'endroit de Alfari Souley ou une appréciation de cette brève présentation de ce texte?
Bon, je n'ai pas de question précise, mais je ne peux qu'apprécier en tout cas toutes ces réformes qui sont en train d'être faites au niveau de la sécurité intérieure. Donc, c'est des réformes qui vont sûrement faciliter, en tout cas, le rôle des FDS, en tout cas, dans la lutte contre l'insécurité grandissante qui prend place dans notre pays. Donc, je ne peux qu'apprécier sincèrement tout ce qu'il vient de dire.
Et nous revenons toujours en studio pour continuer cette fois-ci dans la deuxième partie concernant la contribution des différents acteurs et l'évolution même du processus. Est-ce que ce processus a été inclusif et participatif?
Très bien. Inclusif et participatif parce que lorsque nous avons fini, nous, en tant que techniciens dans le comité technique de rédiger, nous avons procédé à un partage à travers un atelier qui vraiment a été appuyé par les partenaires techniques et financiers tels que DECAF et CAF, oui, c'est eux qui vont...
Et CAP Sahel.
DECAF Sahel. Et ils viennent quoi?
Et voilà. Il y a DECAF, ensuite CAF, et CAP Sahel.
Et CAP Sahel, voilà, et CAP Sahel. DECAF et CAP Sahel, voilà. Voilà, ouais. Vraiment, je les remercie. Je profite d'ailleurs pour les remercier vraiment très honorablement. Vraiment, ils nous ont affiliés. Donc, cet atelier a duré trois jours. Et cet atelier a regroupé tout... Il y a eu des représentants de presque de toutes les structures de FDS. Il y a eu des représentants de la société civile, il y a eu des représentants des magistrats, il y a eu des représentants des droits humains. En fait, toutes les sensibilités politiques, tous ceux qui sont concernés par la sécurité intérieure, vraiment tout le monde était venu. On dépasse plus de 50 à 60 personnes. Quoi.
Et donc, du coup, déjà l'avant-projet leur a été présenté.
Oui, avant même qu'ils ne viennent, on les a transmis ça pour parcourir, prendre connaissance, amender, proposer, enrichir. Donc, quand ils étaient venus, le travail était facile et c'était amusant. Très bien, Walaï. Donc, vraiment, ils ont apporté leur contribution énorme, vraiment, dans l'amélioration.
Une façon de dire que le texte a été davantage renforcé, amélioré. Les différentes couches socio-professionnelles, et en tout cas concernées par cette question, ont dû faire les remarques concernant leur domaine.
Parce qu'il y a même le secrétariat général du gouvernement qui a envoyé aussi un représentant. Donc, ce qui veut dire que, même en ce qui concerne la forme, vraiment, tout a été vu. En ce qui concerne le fond, comme il y a déjà les FDS, il y a les magistrats, il y a la société civile, il y a les représentants des droits de l'homme, disons, enrichi le fond convenablement là, oui.
Est-ce que les élus locaux,
l'Assemblée a amené son représentant, le député est venu. On a oublié vraiment aucune structure. Donc, tout, je vous ai dit, tous ceux qui sont concernés par la sécurité, intérieur là, vraiment tout le monde en tout cas était présent. C'était amusant. Voilà.
Alors, honorable Amina Abdoussouna, au vu de ces explications, est-ce que cela fait partie des critères de validité ou de en tout cas qui rendent crédibles des textes de loi d'avant projet ou de projet de loi du genre? Le fait qu'il y ait des activités d'atelier, de partage à tous les acteurs concernés?
Oui, bien sûr, parce que le fait d'inclure tous les acteurs, ça va amener à avoir un texte vraiment riche, un texte prêt à être une loi. Je pense que c'est une bonne chose. Et seulement, je n'ai pas entendu parler de communication. Parce que la communication aussi doit être de mise. Il faut que les FDS communiquent avec la population. Parce qu'avec cette insécurité-là, vous savez, il faut la collaboration de la population. Pour que la population collabore, il faut communiquer avec elle. Le constat, tout le monde le sait, c'est que la population, elle considère les FDS comme une force répressive, alors qu'elle est là pour leur sécurité.
Il y a une méfiance souvent qu'on constate dans certains cas.
C'est cette méfiance-là qu'il faut essayer d'enlever pour qu'il y ait une confiance entre les FDS et la population. Et pour ça, je pense qu'il faut communiquer. Les FDS sont là en train de faire une bonne chose, elles sont en train de travailler, mais il faut communiquer. Il faut que la population voit, qu'elle sache ce qu'elle est en train de faire.
Et ça, vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être inclus dans ce texte?
Bien sûr, ça doit être inclus. Parce qu'il faut, dans la communication, sûrement, ça va être dans la partie formation des FDS. Alors, la formation doit faire partie de tout ce qu'il est en train de dire. Il l'a dit d'ailleurs. Donc, ça doit vraiment prendre en compte la communication.
Et surtout à l'endroit de la population civile.
À l'endroit de la population, c'est ça.
Alors, il veut réagir, M. Alfari, voulait apporter peut-être des précisions.
Oui, et c'est bien. Vraiment, je suis très, très, très content que, vraiment de ce qu'elle vient de dire. C'est intéressant. Oui, c'est comme si elle était avec nous. Alors, nous avons déjà pris la communication dans le fond du texte. Mais en plus de cela, je vous dis et je vous fais savoir qu'il y a déjà un module qu'on appelle police de proximité. Et déjà, en tout cas, ce module est enseigné à l'École nationale de police, la force de proximité. Ça, quand on dit force de proximité, ça, c'est ça déjà. La communication en tant que telle aussi, il y a un module qu'on a élaboré et c'est enseigné aussi à l'École nationale de police. Mais nous avons quand même tenu compte de tout cela, de la formation, tout ça. Quand on va lire le projet, tout est dedans. Tout est dedans. Et avant même, déjà, c'est quelque chose qui est souterrain, on a accepté maintenant de légaliser ça dans un texte. Et c'est déjà bien. Oui, vraiment, je suis d'accord.
Bien. Alors, justement, la police, est-ce qu'on peut avoir une idée de la contribution de la police nationale dans ce processus?
Dans ce
processus d'élaboration.
La police était représentée, je vous ai dit. Étant donné que d'abord, les experts, ce sont des inspecteurs généraux de la police, y compris le directeur de l'école. Oui,
tous. De l'école de police.
De l'école de police nationale et la formation permanente. Tous, en tout cas, étaient membres du comité. Oui.
Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce processus?
C'est-à-dire que nous avons rédigé et on a en tout cas partagé l'avant-projet en atelier et ça a été validé. Maintenant, on a essayé d'intégrer toutes les observations et les contributions des uns et des autres. Donc le texte en tant que tel est fini. Maintenant, à l'heure, ce matin, j'ai passé à l'école nationale de police et j'ai trouvé le directeur même à pied d'œuvre. Il est en train maintenant de rassembler tout ce qu'on a fait comme projet de texte et il me disait qu'il va essayer de le remettre au DG pour les donner au ministre de l'Intérieur. Une fois, en tout cas, les fichiers en hard et les fichiers clés ont été remis donc au ministre d'État. C'est en ce moment que commence maintenant la procédure d'adoption normale. Lui, il va passer ça à son DL. Le DL va aussi.
C'est quoi le DL?
Le directeur de la législation, oui. Celui que vous avez tout à l'heure.
C'est
lui qui va vraiment. Le ministre va. Parce que quand dans le ministère, c'est lui qui est le patron.
Le spécialiste.
Le spécialiste des textes. Ouais. Maintenant, il va essayer d'observer lui aussi pour parcourir. Malgré qu'il était à l'atelier, cela n'est pas suffisant.
Oui.
Il va essayer quand même de parcourir lui aussi.
Et voir. S'assurer que justement les remarques et observations aient été prises en compte.
Oui, parce qu'il avait même donné des remarques pertinentes. Nous, on a pris ça en compte, donc il va vérifier. Maintenant, si tout est OK, tout est OK. Maintenant, parce que même les exposés de motifs, j'ai rédigé les exposés de motifs moi-même pour accompagner ce projet de texte-là. Et c'est avec les exposés de motifs que les décideurs comprendront le pourquoi de ce texte-là. Oui. Et les objectifs donc, qui sont visés par ce texte. Donc voilà, j'ai rédigé, ça va accompagner. Lui, maintenant, quand il finit son travail, il va faire une lettre de transmission au secrétaire général du gouvernement, au SGG. Et en ce moment, il va faire à peu près 50 exemplaires du projet qu'il va transmettre au secrétaire général du gouvernement, puisque le secrétaire général du gouvernement a déjà envoyé leurs représentants à l'atelier. À supposer qu'ils n'ont pas envoyé, là, il sera obligé donc d'envoyer 15 exemplaires pour examen là-bas et recueillir leurs observations et intégrer avant de. Mais déjà, ils ont envoyé leurs représentants, donc il va faire seulement 50 exemplaires et avec une lettre de transmission que le ministre d'État signe. Si c'est parti là-bas, au secrétaire général du gouvernement, il y a un comité technique qu'on appelle comité technique de vérification des tests que le gouvernement même a créé. Tous les textes, avant d'aller au conseil de cabinet, doivent être observés par ce comité technique qui vont l'observer quant à la forme et le style juridique.
Le fond.
Le fond ne touche pas tellement au fond parce que c'est la forme. C'est-à-dire que si c'est conforme à la Constitution, aux textes internationaux, aux textes communautaires, les coquilles, le style juridique, tout ça, c'est ça donc qu'ils vont vraiment s'en occuper. Le côté vert. Maintenant, quand ils finissent, ils vont donner leur observation. Le DEL doit.
Le directeur de la législation.
Le directeur de la législation. Il doit, en ce moment, à l'examen, donc, cette fois, le comité être présent, il va prendre note. Maintenant, quand c'est fini, il va venir intégrer toutes les observations donc des membres donc du côté vert là, le comité technique de vérification des textes. En ce moment, quand il les a intégrés, il va encore reconstituer en 50 exemplaires qu'il va envoyer. Et en ce sens, ça passe au conseil de cabinet des ministres. Donc le secrétaire général va transmet ça au conseil de cabinet des ministres. Et là-bas aussi, les ministres vont faire les observations. Ferdinand, oui, ils vont faire les observations. S'ils finissent leurs observations, maintenant ils vont donner ça au SGG, qui va appeler le directeur de la législation du ministère de l'Intérieur pour intégrer ces observations. Une fois que c'est intégré, maintenant, il va reconstituer encore 50 exemplaires qui vont passer au Conseil des ministres pour l'adoption.
Au
niveau du gouvernement. Déjà, le gouvernement a examiné, a fait ses observations au niveau du Conseil des cabinets. Maintenant, c'est l'adoption. Quand ça passe, le gouvernement adopte. Quand c'est fini maintenant, le gouvernement transmet ça à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale maintenant, eux aussi, ils transmettent ça à la commission compétente, comme elle vient de vous le dire.
La commission compétente qui est justement représentée dans ce débat, et notamment à la personne de l'honorable Amina Abdou, qui est. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors, vous avez entendu ces processus complexes et en tout cas un peu souvent répétitifs peut-être. Pour s'assurer de la crédibilité du texte, voilà, quelle appréciation?
Oui, bon, à un moment, je ne vous suivais pas parce que le réseau était un peu
défectueux,
Donc, mais j'ai entendu les dernières phrases là.
Oui, en tout cas, un peu le processus avant que cela n'atterrisse à l'Assemblée.
Voilà, donc c'est ça, c'est comme l'Assemblée, hein. Donc, avant que ça n'atterrisse à l'Assemblée, ils ont une chaîne Donc le projet de loi, ou du moins le texte, va suivre cette chaîne-là d'enrichissement avant que ça n'atterrisse à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand le gouvernement envoie à l'Assemblée nationale, c'est la commission de la défense et de la sécurité qui est saisie au fond pour examiner ce texte-là. Donc, du coup, le président va réunir la commission. La commission va se réunir, elle va entendre le ministre concerné, si c'est le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur.
Pour le cas présent, pour le cas en question, c'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre d'État,
Bazoum. Voilà, donc la commission peut entendre le ministre de l'Intérieur ou bien celui qui va déléguer, ou même toute personne susceptible de lui apporter son concours. Donc après examen du texte, la commission va élaborer un rapport qu'elle va déposer au bureau.
Avant ce rapport, je voulais poser cette question. Alors, quand vous dites examiner au fond, ça veut dire quoi concrètement au niveau de la commission, le texte qui...
Ça veut dire que c'est la commission de défense qui est vraiment compétente pour porter des modifications au texte que le gouvernement a envoyé. Donc, quand elle va se réunir, les députés vont ils vont discuter. Chacun va donner son avis avec l'éclairage du membre du gouvernement ou des autres personnes qu'elle aura identifiées. Donc, la commission va essayer d'enrichir aussi le texte que le gouvernement a envoyé. Il le faut même changer certains articles. Voilà, donc quand elle va finir son amendement sur tout le texte, elle va élaborer un rapport qu'elle va déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, la deuxième étape, ou bien je mets la charrue devant...
Oui, non, allez-y.
Donc, la deuxième étape, après l'examen de la commission de défense et de sécurité, c'est l'examen en plénière. Donc, ça, c'est l'examen dans l'hémicycle même, où tous les députés seront présents. Donc, la discussion du texte sera ouverte par la présentation du rapport
qui a été transmis par la commission.
Voilà,
défense
donc le rapporteur
sécurité
de la commission va lire le rapport, et après lecture du rapport, les députés qui désirent s'inscrire vont s'inscrire pour prendre la parole, porter leur amendement, porter des clarifications, poser des questions au ministre qui est présent dans la salle. Donc après toute cette discussion-là, le président va clôturer la discussion générale et il va ensuite inviter la plénière à la discussion article par article. Donc, tous les articles qui sont dans le texte de loi vont être examinés.
Au point par point.
Et là, point par point, article par article.
Oui.
Et là, les députés ont aussi ce droit d'amender ce que la commission a proposé. Voilà, donc s'il y a un amendement, le député peut déposer son amendement, soit la veille ou avant même le début de la discussion. Alors, quand on finit la discussion article par article, on va passer par l'adoption de tous les articles. Donc, après l'adoption de ces articles-là, on procède au vote d'ensemble.
Au vote du texte dans son ensemble.
Dans son ensemble. Et c'est en ce moment que les présidents de groupe vont donner leur consigne de vote pour une orientation du vote.
Soit accepté ou rejeté.
Accepté ou rejeté. Et maintenant, le texte est validé par la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des membres présents à l'hémicycle, pour plus ceux qui ne sont pas là, qui ont envoyé des procurations. Donc, on fait le décompte. Donc, le texte est adopté à la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un.
La moitié des personnes présentes, des membres présents
et
ceux qui ont été représentés.
Plus les procurations. La moitié des députés présents physiquement, pour plus les procurations, donc plus un.
Oui.
Voilà.
Et en ce moment, le texte devient une loi, c'est ça? Le projet
devient... En ce moment, elle devient une loi et le président de l'Assemblée envoie au président de la République qui va passer à la promulgation de la loi.
Alors, on se rend compte que pour qu'un texte puisse être voté, pour qu'un avant-projet ou un projet de loi puisse être voté, il y a une chaîne, une chaîne très complexe que ce texte suit, où à chaque niveau, il y a des vérifications, des examinations, en tout cas, à n'en pas finir, entre guillemets, pour venir à un texte qui va être acceptable, je me dis.
Oui, oui, c'est juste parce que là, c'est une loi. Une loi, elle est impersonnelle. Elle doit s'appliquer à tout le monde. Donc, elle doit vraiment être très riche et applicable, surtout applicable à tout le monde. Donc, c'est pour cela que cette chaîne-là, vous constatez qu'il y a cette chaîne-là de contrôle, de vérification,
pour de validation.
Qu'on ne commette pas d'erreurs. Une loi, certes, elle ne peut pas être parfaite, mais elle ne doit pas comporter aussi beaucoup d'erreurs. Voilà.
Nous revenons en studio avec vous, M. Alfari. Alors, c'est vrai que vous nous avez fait la description du cheminement que suit l'avant-projet avant d'atterrir à l'Assemblée. Et l'honorable Amin Abdou nous avait fait aussi cette description de l'autre côté, donc du processus, notamment le processus de l'adoption du texte en question. Alors, quelle appréciation faut-il faire de façon générale?
Bon, de façon générale, c'est que le processus vraiment est idéal, parce que le processus là va permettre, en tout cas, enfin, d'éviter qu'il y ait des atteintes aux droits protégés par les hommes et aux libertés. Parce que tout ça là, toute cette chaîne là, vraiment, c'est dans l'intérêt de la protection des droits humains et des libertés. C'est pas parce qu'on veut toutefois donner force à tel ou tel organisme ou telle institution qu'il faut aller brusquement. Il faut voir si la loi qu'on avait adoptée d'abord respecte dans son ensemble vraiment les droits qui sont protégés avant même de l'adopter. Parce que c'est pourquoi il faut donner beaucoup de réflexion quand on dit de faire un texte de loi. Il faut se poser pas mal de questions. Ça va suivre ce même cheminement-là jusqu'à la promulgation. Parce que comme c'est une loi ordinaire, c'est directement. Mais quand ça aurait été que c'est une loi organique, on allait m'envoyer ça à la Cour constitutionnelle.
Pour vérification de constitutionnalité.
Exactement.
Alors, la question que je voulais vous poser rapidement avant qu'on arrive sur les défis et les perspectives, vous avez dit aussi que le comité technique dont vous êtes membre, qui est chargé d'élaborer les textes de loi sur la sécurité intérieure, n'a pas travaillé que sur le texte de loi sur la sécurité intérieure. Vous pouvez nous donner lecture rapidement des autres textes, des autres en tout cas, voilà, textes sur lesquels vous avez travaillé.
Très bien. Donc, notre comité technique vraiment a élaboré pas mal d'avant-projets de textes. Outre, je vous dis bien, la loi sur la sécurité intérieure, il y a la loi sur le régime général des armes, de leurs pièces, éléments, munitions et autres matériels connexes en République du Niger. Il y a un avant-projet de loi, en tout cas, aux sociétés privées de sécurité au Niger. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de sociétés privées, mais ces sociétés privées, il n'y a aucun texte qui
les encadre. Ouais.
Oui, et encore, il y a un autre projet de loi portant réglementation du système de vidéo de surveillance. Au Niger, actuellement, ceux qui ont les moyens, beaucoup de gens ont des caméras de surveillance chez eux. Il n'y a pas de réglementation. Alors qu'il y a des normes pour pouvoir fixer les caméras de surveillance. Mais tout ça, ce n'est pas respecté.
Et donc, le comité a travaillé sur cette question.
Ça va aussi atterrir à l'Assemblée nationale, Inch'Allah. Il y a aussi et un avant-projet de loi portant réglementation du secret de la sécurité nationale, c'est-à-dire secret défense. Parce qu'on n'a pas de texte pour ça, donc vraiment, on a essayé d'élaborer pour ça. Oui. Il y a aussi un projet de décret portant régime de la garde à vue au Niger. La garde à vue en tant que telle, ça se trouve dans le code pénal, mais il n'y a pas de régime, il n'y a pas vraiment assez de texte pour réglementer ça. Maintenant, tout est bien fait. Oui. Il y a aussi un avant-projet de décret fixant des conditions d'octroi de retrait ou de suspension de l'habilitation des officiers de police judiciaire. Le code a dit, voilà ceux qui sont officiers de police, mais le code a renvoyé à un décret qui doit quand même fixer les conditions d'habilitation et le retrait et la suspension. Mais c'est ça que nous avons, c'est un décret d'application du code. De la loi, en tout cas, autant que code pénal.
Alors, une question. Dans l'urgence, quel est le texte qui nécessite ou qui mérite d'atterrir à l'Assemblée dans les jours à venir?
Dans l'urgence, c'est la loi sur la sécurité intérieure. Vraiment, c'est tout de suite ce qu'il faut envoyer, c'est ce qu'il faut. Les autres vont suivre après, il n'y a pas de problème.
Alors, pour finir, quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face dans ce processus ou auquel vous devez faire face plus tard?
Dans l'élaboration, on n'a pas eu de... au contraire, il faut remercier les partenaires techniques financiers qui nous ont appuyés. Mmh. Nous n'avons pas eu de problème. Mmh. Oui, jusqu'à aujourd'hui, je fais, même à l'atelier, les gens, vraiment, tout le monde était souriant pour, dans l'enrichissement donc, de ce projet.
Comment, à votre avis, ce processus peut être bien conduit à bon port?
Ce processus peut être bien conduit à bon port s'il y a suivi. S'il y a le suivi, il faut qu'on suive. Parce qu'il ne suffit pas de faire et de déposer dans les tiroirs. Il faut accélérer, il faut suivre jusqu'à la fin. Oui, oui, c'est ça, c'est le suivi.
Alors, nous terminons avec vous, honorable Amena Abdoussouna. Comment, à votre avis, ce processus peut être conduit à bon port?
Bon, c'est comme il l'a dit, hein, ce processus peut être conduit à bon port s'il y a suivi, si tous les parties prenantes qui ont participé à l'élaboration de ce texte-là, si tous ces acteurs-là arrivent à suivre le dossier jusqu'à ce que le dossier atterrisse au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que c'est la meilleure façon de que le processus soit vraiment à bon terme. C'est le suivi, c'est vraiment le suivi. Comme il l'a dit, il ne suffit pas de rédiger et de mettre dans les tiroirs. Ça, c'est le commun et le propre des Nigériens. On a assez de textes, mais c'est le suivi qui est problème. Donc vraiment, compte tenu de l'insécurité grandissante dans le pays, je pense qu'il est impératif que ce texte-là aboutisse, atterrisse du moins très rapidement au niveau de l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui qui portait sur le thème processus d'élaboration et d'adoption de textes de loi sur la sécurité intérieure au Niger. Voilà, nous avons vu avec nos invités, en tout cas, les motifs qui ont prévalu à l'élaboration de ce texte, notamment le besoin d'avoir un arsenal juridique important et le besoin de renforcer davantage la coordination, la planification et la coordination, en tout cas, des efforts des différentes forces de défense et de sécurité, notamment les forces de sécurité intérieure, dans leur travail quotidien. Nous avons vu également que ce processus, en tout cas le processus pour l'élaboration du texte de loi sur la sécurité est déjà à son terme. Ce processus va être poursuivi pour arriver à destination, notamment à l'Assemblée nationale, où ce texte va être étudié, examiné, adopté en tant que loi, avant d'être promulgué par le président de la République du Niger. Nous avons également vu, en tout cas, les deux invités ont émis le vœu et pour eux, en tout cas, la condition sine qua non pour que ce processus puisse aboutir, c'est qu'il y ait un suivi rigoureux du début, en tout cas à la fin, pour que ce texte ne finisse pas dans les tiroirs. Merci à tous. Nous étions en compagnie de l'honorable Amina Abdoussouna, membre de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, et Alfari Souley, membre du groupe de travail sur l'élaboration des textes de loi sur la sécurité. Je suis Alassane Kouzé Mamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Issa Lawale.